Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. C'est avec un plaisir non dissimulé que je retrouve mes acolytes pour cette saison 2. Les années n'ont pas de prise sur lui, il est affûté comme jamais. Notre légende, Imanol Arinordoki, est avec nous. Et pour ceux qui ont la vidéo, bah, ils sont deux là actuellement. Hein. Deux
bonjour à tous, on est venu en force aujourd'hui.
Affûté, je ne sais pas, mais la plume toujours aiguisée, ça oui. Nos confrères du Midi Olympique, Arnaud Berdelet et Jérémy Fada sont là. Est-ce que comme les joueurs, vous sortez d'une grosse prépa physique, les gars?
Plus que jamais. N'en dira pas plus.
Ouais, ben voilà, je m'arrêterai à ça.
Allez, place au sommaire de ce deuxième épisode de la saison. Dans le sillage d'une fin de saison houleuse marquée cet été par le départ inattendu de Cameron Wauquiez, Bordeaux a perdu ses deux premiers matchs et se retrouve sous pression avant de recevoir Castres. Entre polémiques extrasportives, agacement à peine voilé en conférence de presse, que se passe-t-il à l'UBB? Y a-t-il un problème? Deux matchs, deux victoires, Toulouse plane sur ce début de saison. Mais la sortie amère de Thomas Ramos sur son temps de jeu la semaine dernière confirme ce que l'on pressentait. Avec son effectif de galactique, Hugo Mola et son staff vont devoir composer avec les égos et les frustrations. Comment gérer cette concurrence féroce? Est-ce un risque pour les Toulousains? Imanol, je suis curieux d'avoir ton avis. Et puis, les sorties sur blessure dimanche de Romain Ntamack et François Cross ravivent nos inquiétudes sur le sort de nos internationaux à moins d'un an de la Coupe du Monde. Et les joueurs dans tout ça, comment vivent-ils ce risque de blessure durant cette saison si particulière? N'y a-t-il pas la tentation de se préserver? Imanol, tu t'es exprimé là-dessus dans le Midi Olympique lundi, c'était passionnant et nous prolongeons le débat dans Arrêt Buffet. C'est parti. On va donc débuter avec l'UBB. Bordeaux reçoit Castres samedi avec une drôle de pression sur les épaules. Battu à domicile par Toulouse, puis à Montpellier, Bordeaux est la seule équipe du top 14 avec l'USAP à ne pas avoir remporté un match. Alors vous allez me dire, il n'y a rien d'infamant à perdre face au Stade Toulousain et sur la pelouse du champion de France, mais entre la fin de saison chaotique, le départ précipité de Cameron Wauquiez, les polémiques autour du Jalibert, l'extra-sportif semble prendre le dessus. D'ailleurs, messieurs, preuve de la nervosité ambiante, ce mardi, en conférence de presse, Clément Ménadier s'est agacé face à ces nombreuses polémiques. Il s'en est pris aux journalistes. Tout ça, ça ne ressemble pas à Bordeaux, non? On a le sentiment que Bordeaux a un peu perdu de sa sérénité. Je me trompe, Imanol?
On sent qu'il y a de l'agacement, forcément, par rapport à la pression médiatique, surtout, et forcément, déjà, quand en interne, ça peut être un peu compliqué, qu'il peut y avoir des frustrations, des tensions à gérer par rapport à la sortie de fin de saison l'année dernière et ce début de saison qui n'est pas parfait. Je ne vais pas dire qu'il est mauvais, parce qu'il y a quand même des très bonnes choses sur le terrain. Mais voilà, les résultats ne sont pas là. Et donc, quand les résultats ne sont pas là, on va toujours chercher la petite bête. Et on sent qu'il y a eu un peu d'agacement, notamment aussi de Christophe Furios, quand on lui a posé la question concernant Jalibert, il a dit qu'il ne fallait pas aller chercher la petite bête. Non, je pense qu'il y a eu des explications en interne, mais forcément, cette pression autour du groupe, des joueurs, ça doit aussi agacer les joueurs, pas que le staff. Et donc, quand il y a cette pression un peu autour de l'équipe, ben forcément, les joueurs, ils ne sont pas à 100% sur l'objectif sportif. Il y a toujours des petites questions qui les tracassent et l'ambiance peut s'en ressentir. Mais on voit quand même que sur le terrain, notamment le week-end dernier, en seconde mi-temps, ils ont quand même réagi. C'est eux qui ont proposé du jeu. Donc voilà, on ne sent pas en tout cas un vestiaire ou un groupe qui lâche son entraîneur. Mais voilà, pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la bonne carburation. Mais même s'il n'y a rien d'alarmant, il ne faut pas trop laisser passer deux matchs parce qu'on sait que même si le championnat est long et que l'année dernière, comme l'a relevé Christophe Furios, ils avaient très bien commencé, ils avaient mal fini, il ne faut quand même pas laisser trop de points en route.
Jérémy, Arnaud, comment vous réagissez, vous, à ces déclarations de Clément Ménadier en conférence de presse qui a dit, je cite, « Toutes les polémiques à deux balles, c'est fini, le club vous ouvre les portes », là, il s'adresse aux journalistes, « et derrière, vous nous saccagez ». Comment vous réagissez, vous, à ces propos?
Moi, je n'ai pas envie d'y réagir.
Dans le sens, comment vous interprétez ça?
C'est, ça, bah, c'est une équipe qui cherche des solutions. Ils se raccrochent, les joueurs se raccrochent à peu près à ce qu'ils peuvent, à des branches, même si celle-ci me semble un peu pourrie. Je pense pas que l'UBB ait besoin d'aller chercher ce genre d'argument pour défendre son bilan. Comme le disait Emmanuel, honnêtement, il y a eu deux matchs de jouer l'an passé. Je crois qu'après cinq journées, La Rochelle n'avait gagné qu'un seul match. Ça ne les a pas empêchés d'être champion d'Europe et d'aller jusqu'en demi-finale du top 14. Donc, il n'y a pas le feu au lac. Ce qui est, je pense, frustrant pour les joueurs de l'UBB, c'est qu'aujourd'hui, l'extra-sportif a pris le pas sur le sportif parce que sur le terrain, très honnêtement, pour le premier match face à Toulouse, si l'UBB s'impose, il n'y a absolument rien à dire, mais rien à dire. Si ce jour-là, Jalibert ajuste la mire, je pense que Toulouse passe à la trappe et que sur le contenu, ce premier match a été franchement intéressant. Emmanuel l'a dit aussi, la deuxième mi-temps face à Montpellier a été aussi… on a vu une réaction d'orgueil, mais surtout, on a vu une qualité de jeu plutôt intéressante. Le problème, voilà, c'est que l'extra-sportif prend le pas sur le sportif aujourd'hui à l'UBB. Il y a tout un tas de polémiques. Je ne veux pas revenir sur la pseudo-affaire Mermoz qui n'aurait jamais dû… qui n'aura jamais dû en être une. Il y a effectivement les résidus de la tension de la fin de saison dernière avec cette sortie de Christophe Furios après le match face à Perpignan où il avait allumé Woki et Jalibert. Ça en est suivi, et c'est peut-être là le point de départ de la difficulté de l'UBB, c'est d'avoir finalement libéré Cameron Woki un an avant la fin de son contrat. Moi, j'ai interprété ça comme un manque d'ambition de la part de l'UBB, très sincèrement, même si j'entends les propos du président Marty qui dit que on ne retient pas un joueur qui a émis le désir de partir, sauf que Cameron Woki comptait bien faire sa dernière année à l'UBB, mais ils ont eu peur d'un manque d'investissement de sa part, sachant qu'il partirait à l'issue de la présente saison. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'un joueur qui est international comme Cameron Woki, l'année où il prépare une Coupe du Monde, il aurait tout donné avec son club, il aurait été à 100%, voire même plus, pour s'assurer une place pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, aujourd'hui, pour résumer, le problème, il n'est pas sportif à l'UBB, parce que sur la qualité de jeu, je fais confiance à Christophe Furios, et je suis convaincu que l'UBB sera une équipe, un postulant très très sérieux pour les phases finales. Maintenant, tout ce qui est extra-sportif, il faut qu'il le gère. C'est-à-dire que président Marty a envoyé un mauvais signal en laissant partir Woki sur, on a interprété ça et beaucoup, et pas que les journalistes, contrairement à ce qu'en pense Clément Ménadier, mais a interprété ça comme un manque d'ambition. Après, il y a toutes les affaires qui polluent le sportif, et il faut qu'ils arrivent à s'en défaire. Et une fois que ce sera fait, je suis persuadé que l'UBB, ça va rouler, quoi.
Non, mais là où je rejoins Arnaud, c'est que la meilleure moyen de s'en défaire, c'est de gagner. Voilà, ce qui manque aujourd'hui à l'UBB, c'est de gagner. Et je suis d'accord que sur le contenu, si l'UBB, franchement, rend la même performance contre Toulouse, sur d'autres matchs à domicile, ne vous inquiétez pas, ils gagneront plus de matchs qu'ils en perdront à domicile. Voilà, ils ont un trou d'air de 20 minutes en deuxième mi-temps sur lesquels ils se font tuer parce qu'en face, il y a des énormes individualités. Ils ont les balles au match à la fin. Je ne suis pas très inquiet non plus sur le contenu. Ils ont juste besoin de victoire pour reprendre un petit peu de confiance. Je me rappelle… Imanol, l'année dernière, juste après la sortie de Christophe Furios, avait dit que c'était une sorte de coup de management que tentait Christophe Furios, qu'il avait besoin de réveiller un petit peu son groupe sur la fameuse affaire Woki Jalibert, et il disait s'ils vont au bout, ils en ont peut-être besoin, et s'ils vont au bout, tout le monde va l'oublier. Par contre, s'ils ne vont pas au bout, bah, ça risque d'être un été un peu explosif. C'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ils ont juste besoin d'apaiser ces tensions et de revenir sur du sportif. Et juste pour terminer, concernant Clément Ménadier, pour tout vous dire, c'est un garçon que j'ai côtoyé cet été sur la tournée des Barbarians, qui m'a marqué par… c'est un mec vraiment intelligent, brillant, et j'en viens même à me demander si ce n'est pas un peu voulu pour électriser le groupe de l'intérieur. C'est vieux comme le monde, les médias contre nous. Et est-ce que ce n'est pas fait un petit peu, lui, en tant que cadre du vestiaire, pour essayer de faire réagir tout le monde et déplacer un petit peu le regard? Franchement, j'en viens à me poser cette question.
Mais il faut demander à Emmanuel. Emmanuel, ça te rappelle des souvenirs, non? Les joueurs contre la terre entière, contre les journalistes, 2011, flashback.
Bon, c'est pas que 2011, c'est vieux comme le monde. Donc, il y a toujours un moment dans une saison où dans chaque club, ça se passe. Après, il y a des clubs qui sont plus médiatisés que d'autres. Donc, on en parle plus, on en fait plus une affaire d'État. Mais à tous les niveaux et dans tous les clubs, ça se passe comme ça sur chaque saison. Parce que. C'est ce qui permet aux joueurs de se resserrer entre eux et d'avoir un objectif commun. De dire, de toute façon, tout le monde est contre nous, donc on va tous leur montrer qu'ils ont tort. Et voilà, on va faire fermer la bouche à tout le monde. Et forcément, quand il y a des papas en plus du vestiaire qui prennent ça un peu en main, mais en général, ça permet en tout cas d'avoir un groupe qui non pas seulement va réagir, mais qui va être acteur. Voilà, parce que peut-être que par moment, il y a des joueurs qui sont un peu spectateurs de tout ça. Et ça oblige tout le monde, en tout cas, à devenir acteur de cette situation et de se sentir concerné. Et donc, de peut-être de s'engager un peu plus. Voilà, maintenant, si on commence déjà la deuxième journée du championnat à devoir secouer le cocotier, la saison peut être longue.
Mais Olivier, tout ça, tout ça doit quand même finir par affecter le groupe, ces polémiques, cette fébrilité apparente. Non, mais pour preuve, ou affecter les joueurs, pour preuve, un garçon comme Jalibert, je ne sais pas si c'est la conséquence de ces diverses polémiques, mais on voit pour l'instant dans ce début de saison, on l'a connu meilleur. Il est passé quelque peu au travers de son match face à Montpellier. Il a raté deux pénalités contre le Stade Toulousain. Est-ce que tout ça, ça finit pas quand même à affecter les joueurs et les performances individuelles?
Olive, parce que tous les regards sont braqués sur Jalibert, voilà, il rate.
Parce qu'ils n'ont pas l'habitude aussi, les Bordelais.
Ouais, mais il rate deux coups de pied à la fin contre Toulouse.
Il n'y a pas une vague.
Il fait pas une bonne première mi-temps à Montpellier, mais dis-moi quel Bordelais a fait une bonne première mi-temps à Montpellier. Voilà, nos regards sont braqués sur Jalibert, on est sévère avec lui, c'est logique hein, par rapport à son statut. Mais moi, je peux te dire une chose, c'est que si Bordeaux gagne deux matchs d'affilée, t'inquiète pas, le groupe ne sera plus affecté. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que ce groupe, il a juste besoin de retrouver la victoire. Hein. Après, s'il continue à perdre, évidemment que ça va finir par exploser. Mais il leur manque juste un succès, c'est tout. Enfin, c'est mon avis en tout cas.
Moi, je rejoins Jérémy. Mathieu Jalibert, la problématique, elle est qu'aujourd'hui, il a un statut quand même relativement important. C'est un personnage un peu clivant. On a le sentiment qu'avec lui, c'est ou très bon ou très mauvais. Il n'y a pas
juste milieu. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'acharnement d'ailleurs, Arnaud, sur lui?
Moi, je ne parlerai pas d'acharnement.
Non, on ne lui laisse rien passer.
Voilà, je pense qu'effectivement, mais il n'y a pas que le regard des journalistes, il y a aussi le regard des supporters, des observateurs lambda. C'est qu'on attend beaucoup de ce garçon. Il est talentueux, il est pétri de qualité. C'est quelqu'un qui assume ce qu'il a envie d'être, ce qu'il a envie de devenir. Il a cette graine de champion au fond de lui. Et c'est vrai qu'en France, on est dans un milieu où faut être humble, faut rester à sa place. Les gens qui affirment haut et fort leurs ambitions en France, il serait anglais aujourd'hui. Mathieu Jalibert, il aurait probablement d'autres regards hein, qui se porteraient sur lui. En France, on n'aime pas ces gens qui assument finalement de vouloir être les meilleurs, de vouloir être les numéro un. Donc, alors pas de bol pour lui. Effectivement, il s'est craqué contre Toulouse avec ses coups de pied ratés. Il s'est craqué contre Montpellier en se faisant contrer et en offrant un essai. Bon, voilà, il ne fait pas un début de championnat, c'est sûr. Je pense qu'il rêvait d'autre chose. Alors, est-ce que oui ou non, ça pèse sur ses performances, toutes ces polémiques? C'est probable qu'il ne passe pas ses meilleures nuits en ce moment. Mais il va se relever. Enfin, je ne suis pas inquiet. Il y a une Coupe du Monde au bout. Il va se relever. Ce n'est pas le souci. Et quant à la pseudo-polémique qui est née avec les propos de Ménadier, enfin, moi, j'ai souvenir de 2011. Je revois encore, Emmanuel était dans le lot avec Aurélien Rougerie, une conférence de presse surréaliste. S'ils avaient eu des arcs, je pense que nous on aurait été des gazelles, on aurait couru partout dans la salle de l'hôtel là à Auckland et ils nous auraient tiré dessus. Et aujourd'hui on en rigole parce que ça leur a permis de tirer la quintessence de leur groupe. Et si les Bordelais font ça, je vous annonce que Bordeaux sera champion de France à la fin de la saison. Quoi.
Bon, toi t'es pas une gazelle, hein.
Non, je confirme.
Si vous avez pas la vidéo,
c'est pas un arc qu'il fallait là.
Non, c'est pas un arc. Et puis de toute façon, Emmanuel s'est pas visé, donc c'est pas grave.
Emmanuel, toi, par rapport à Mathieu Jalibert, toutes ces polémiques, toi, l'ancien joueur, peut-être que tu le connais un peu, Mathieu Jalibert, je ne sais pas, mais comment tu réagis là-dessus?
Mais pour moi, les attentes et forcément la critique sont toujours à la hauteur du talent du joueur. Ça me fait penser un peu à Teddy Thomas. Donc forcément, on est toujours beaucoup plus dur, beaucoup plus critique. C'est un joueur qui cristallise beaucoup d'attentes. Donc, plus les petites polémiques autour. Voilà, aujourd'hui, c'est des joueurs stars, clairement. Après, voilà, il a cette attitude un peu à la Farrell où il est sûr de lui. C'est un joueur fier. Et quand il passe un peu à côté, forcément, il se fait toujours beaucoup plus critiquer qu'un autre joueur. Après, moi, je suis pas inquiet. Je pense qu'il a besoin de remettre un peu d'ordre, peut-être d'avoir un peu moins de pression aussi. Par rapport à tout l'engouement médiatique qu'il y a autour de lui. Et voilà, quand il aura retrouvé en tout cas le chemin et la sérénité pour pouvoir exploiter son potentiel, je ne suis pas très inquiet quant à la capacité du joueur de ramener l'UBB à à sa place. Voilà. Après, c'est vrai que la saison passée, heureusement ou malheureusement, voilà, quand Jalibert a été en haut de l'affiche, eh bien, l'UBB était en lévitation. Et forcément, quand Jalibert va moins bien, l'UBB aussi va moins bien. Mais ce n'est pas que lui. Hein. Je pense que les autres joueurs aussi ont besoin de retrouver un peu de sérénité, de remettre les choses à l'endroit. Et comme l'a très bien dit Jérémy et Arnaud, le meilleur moyen de remettre le facteur sur le vélo, c'est de gagner un match. Après, on ne parle plus de rien.
Ouais, et puis, facteurs sur le vélo, je ne connaissais pas ça. Je connaissais l'église au centre du village. Mais...
Il n'y a qu'au Pays Basque où les facteurs sont encore à vélo.
Juste, Olive aussi, si Mathieu Jalibert il prend autant la lumière, c'est qu'il a énormément symbolisé la réussite et la montée en puissance de cette équipe bordelaise. Il est devenu international, il avait même pas 20 ans. Cette équipe qui était en train de grimper dans la hiérarchie française, cette équipe, il l'a portée quoi, par moment, par son talent, par le fait qu'il aime prendre des responsabilités. Et bien forcément, le revers de la médaille, c'est que quand il est moins bon, et bien l'UBB, et bien c'est moins bon aussi, et c'est logique. Et ils sont un peu dépendants de ce joueur. Et voilà, les regards sont braqués sur lui, mais... Encore une fois,
Et ils le sont encore plus aujourd'hui que, je rappelle quand même que l'UBB a laissé partir Ben Lam, a laissé partir, il y avait Picamol et Trinduc qui ont pris leur retraite, a laissé partir Woki, a laissé partir Sotheny. Ils ont perdu des joueurs importants dans leur groupe et le recrutement n'a probablement pas été du même standing, même s'il y a des bonnes surprises comme cet ailier sud-africain dont le nom m'échappe, Mboué, voilà. Tamboué, exactement. Donc, forcément, aujourd'hui, il y a peu de joueurs à l'UBB avec ce ressort médiatique comme peut avoir Mathieu Jalibert. Donc, forcément, si l'UBB va mal, on va tomber sur Jalibert parce que c'est un nom qui porte. Citez-moi d'autres joueurs qui peuvent porter l'UBB à eux seuls. Il y en a peu. Avant, il y avait Woki, il y avait Ben Lam, il y avait Sotheny, voilà, des mecs un peu charismatiques, il y avait de la bouteille, qui étaient des joueurs cadres, qui étaient des joueurs importants. Aujourd'hui, il n'y en a plus tant que ça, l'UBB.
Sur le plan sportif, il y a Moefana qui est quand même...
Non, mais j'entends. Mais sur le plan médiatique, il attire moins la lumière.
Oui, c'est vrai.
Bon, mais sur le plan sportif, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, on le retrouvera au Mondial 2023.
Ouais, peut-être même dans le 15 de départ. J'y mettrais bien une pièce quand même.
Oui, Arnaud, après, pour rejoindre tes propos, il y a des joueurs, outre leur performance sportive, ils rassurent aussi quand ils sont sur le terrain. Ils rassurent leurs coéquipiers et ils permettent aussi à leurs coéquipiers de jouer à un étage supérieur. Donc, forcément, quand ils ne sont pas là, peut-être que le groupe est moins serein, moins en confiance et passe plus difficilement les obstacles. Voilà.
Bien sûr.
C'est sûr que ces deux joueurs-là, notamment la saison dernière, ils étaient quand même très importants.
Bon, ce qui est certain, c'est qu'il ne faudra pas se rater samedi contre Castres. Bordeaux sera très observé. On en parlera probablement la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Arrêt Buffet. Ce sera contre Castres. Attention aux Castrés qui ont été très faciles face au Stade français. Allez, on passe à la deuxième partie, messieurs. C'est bon, vous avez tout dit, on a fait le tour. Allez, on parle du Stade Toulouse.
On est pas mal. Aussi.
Je ne sais pas si au poste d'arrière, jouer 50 minutes est très intéressant. En 15, tu as plus l'habitude de jouer 80 minutes. Cette sortie de Thomas Ramos à l'issue du match contre Bordeaux la semaine dernière n'est pas passée inaperçue. La frustration de l'international est même révélatrice du danger qui guette le Stade toulousain, renforcé cet été, je le rappelle, par les arrivées derrière de Melvin Jaminet, Ange Capuozzo, Pierre-Louis Barassi et Arthur Rétière. Imanol, que penses-tu de tout ça? Est-ce que cette concurrence féroce, c'est un problème ou toi, tu n'y vois aucun inconvénient? C'est un truc de journaliste?
Alors, pour revenir à la petite phrase, pour moi, c'est anecdotique parce que je connais bien Thomas Ramos. Alors, certes, c'est un compétiteur hors pair. Voilà, il déteste perdre, mais c'est quelqu'un quand même de vraiment entier. S'il a quelque chose à dire, il va le dire à son manager avant d'avoir quelque chose à dire au bord du terrain. Il a d'ailleurs rectifié le tir dès ce week-end pour éteindre le début de feu ou d'incendie. Je pense juste qu'il parlait un peu du rythme, voilà, parce qu'il était pas content non plus de sa performance, de sortir tôt. Bon, voilà, certainement une réaction d'un joueur un peu frustré. Pour moi, après, ça cache pas un problème, au contraire. Hein, et même, j'ai envie de dire, si c'est un problème, cette concurrence, et que ça peut permettre aux joueurs d'être un peu agacés, énervés, en tout cas de monter le curseur pour être performants quand ils sont sur le terrain, c'est plutôt un bon problème pour le Stade toulousain, parce qu'on a vu quand même, quand les joueurs rentraient sur le terrain, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, en général, ils ne passaient pas trop à côté, notamment le week-end dernier, tous les joueurs qui sont rentrés, ils ont quand même fait des très très bonnes rentrées. Et puis, c'est problème de riche. Hein. Oh, Romain Tamac se blesse, Thomas, tu as passé 10. Melvin, tu rentres en 15. Capuzzo qui rentre à l'aile. Bon, je pense qu'il y a quelques autres clubs qui aimeraient bien avoir ce genre de soucis. Maintenant, il va falloir aussi le gérer. Je pense que le discours, ça va être de dire à tout le monde que tout le monde aura du temps de jeu, certainement, s'il y a pas de bobo, que la saison va être longue. Et quelque part, pour les joueurs aussi, ça peut leur permettre de se dire, s'il n'y a pas de problème, voilà, de blessure, etc. Mais de se dire, je vais intervenir que sur certains matchs où je vais être titulaire, et il faudra que je sois le plus performant possible. Et le club me donnera les moyens d'être performant pour être au top sur ces matchs-là. Donc, c'est pas mal non plus. Après, c'est sûr, quand on est un compétiteur comme Thomas Ramos, on veut jouer 80 minutes tous les week-ends, et ça, je l'entends. Mais
toi,
bon.
Toi, tu as joué à Biarritz, à Toulouse, tu as connu ces gros effectifs. Il n'y a pas un risque quand même que ça finisse par générer de la frustration?
Mais la frustration, non. S'il y a de la transparence dans le discours, dans le management, et que c'est juste, encore une fois, c'est toujours dur. Mais voilà, si les meilleurs jouent, si la politique ne rentre pas en jeu au sein d'un groupe, il y a toujours des compétiteurs. Les joueurs qui ont signé à Toulouse, ils savaient qu'il y avait la concurrence. Ils savaient qu'il y avait des joueurs qui étaient déjà en place et qui étaient déjà pétris de talent et qui étaient déjà internationaux et qui étaient déjà titulaires. Maintenant, si Toulouse fait aussi signer des joueurs comme ça, qui sont aussi relativement jeunes, c'est pour mettre en concurrence aussi les joueurs qui étaient en place, pour amener, insuffler un sang nouveau, parce qu'on sait que les groupes comme ça qui ne bougent pas trop, au bout d'un moment, il peut y avoir une lassitude. Et le fait aussi d'apporter des joueurs comme ça, très compétitifs dans le groupe, ben ça permet de renouveler le cheptel, mais surtout de faire en sorte que ce cheptel-là, il soit performant.
Jérémy, toi, tu couvres le Stade Toulousain pour le Midi Olympique, notamment le Stade Toulousain. Quel est ton ressenti là-dessus? On a écouté le staff le week-end dernier, Clément Poitronneau, le coach des trois quarts, qui a très vite éteint cette mini-polémique, lui parlant de saine émulation, l'occasion de ménager les organismes, comme ça, d'avoir suffisamment de choix.
Il y a plusieurs points. Effectivement, alors ça, je peux le confirmer en interne. On a dit oui, c'est vrai, la phrase de Thomas a été maladroite parce que à ce moment-là, mal interprétée. Mais là où je rejoins complètement Imanol, c'est que pareil, pour bosser quand même depuis un moment, notamment avec Thomas Ramos, s'il y en a bien un qui va aller dans le vestiaire des coachs pour leur dire ce qu'il pense, c'est bien Thomas Ramos. Donc ça, là-dessus, il y a aucun souci. Après, il y a plusieurs points. D'une part, c'était voulu pour deux choses. Sur le plan sportif, le staff avait très vite ciblé le fait qu'il manquait de ce qu'on dit de canne, de patte, de vitesse sur les extérieurs. Donc, il voulait faire un gros recrutement là-dessus pour cette saison. Ça a été fait. Et justement, le staff toulousain, qui s'est beaucoup remis en cause à la fin de la saison dernière, a justement souligné le fait qu'il avait beaucoup manqué d'émulation et de concurrence l'année dernière, et notamment dans la ligne de trois quarts, et qu'ils l'ont payé à un moment. C'est quand même ce qu'a fait le sel de ce club ou la réussite de ce club pendant longtemps. Je crois qu'Imanol peut en témoigner quand il y est passé. Moi, sur les 3, 4, 5 dernières saisons, sur des matchs de phase finale, j'ai vu Max Médard passer sur le banc, j'ai vu Thomas Ramos passer sur le banc, j'ai vu Johan Huger être hors groupe. À chaque fois, ça a généré des frustrations, mais ça a nourri un petit peu la compétition. Et la dernière chose, c'est que là, on se rend déjà compte qu'on est quand même en année Coupe du Monde. Hugo Mollet, il a annoncé qu'il voulait quand même, en accord avec Fabien Galthié, gérer le temps de jeu des internationaux. Il y en a déjà la moitié de ces internationaux qui sont pétés en ce moment. On a juste Romain Tamak qui est absent un mois, donc on se rend vite compte qu'il y a besoin de ces ressources-là, et il y a d'autres internationaux qui passeront par le banc dans les semaines à venir. En fait, la question va se poser quand? Si l'effectif est à plein, eh bien, la question va se poser pour les matchs de Coupe d'Europe et pour les matchs de phase finale. Mais moi, il me semble que c'est quand même plutôt un confort que d'avoir cette concurrence derrière, qui existe beaucoup moins devant. D'ailleurs, on ne le souligne pas assez, mais le paquet d'avant Toulousain a perdu du monde cet été, n'a pas beaucoup recruté, et il y a déjà pas mal de jeunes qui jouent. Et voilà, c'est surtout derrière qu'il va falloir se poser cette question-là.
Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec tout ce que vous dites par rapport à la phrase de Thomas Ramos. Moi, je crois que Thomas Ramos savait pertinemment ce qu'il faisait. C'est un garçon extrêmement intelligent. Je rappelle juste un truc sur Thomas Ramos. Lorsqu'il était plus jeune, il était barré au Stade Toulousain. Ce mec-là a eu l'intelligence d'accepter d'aller jouer un an en Pro D2 à Colomiers. Avec qui il a fait une superbe saison. Je crois qu'il a fini meilleur buteur d'ailleurs avec Colomiers, oui, cette année-là.
Meilleur joueur.
Et je trouve que c'est le signe d'une intelligence déjà précoce, et ça montre combien ce mec est intelligent, parce que des mecs qui auraient préféré jouer au Stade Toulousain juste pour porter le blazer, faire les réceptions avec les petits fours et serrer la main des partenaires, il y en a plein. Lui, il a eu l'intelligence d'aller en Pro D2. Et je crois que pertinemment, sa phrase, peut-être qu'elle a été un peu sortie du contexte, peut-être qu'elle a été interprétée. Non, je ne dis pas qu'elle est calculée. Mais je dis qu'il savait très bien ce qu'il faisait, dans le sens où c'est un mec hyper franc. On va écouter l'enregistrement. Non, je n'ai pas dit que c'était calculé, j'ai dit qu'il savait pertinemment ce qu'il faisait. C'est-à-dire que quand il tient ses propos devant la presse, peut-être avait-il déjà été voir les coachs pour leur en parler, et il le dit parce qu'il fait passer un message. Parce que Thomas Ramos, il a envie de jouer, point barre. Il sait qu'il y a une Coupe du Monde à aller chercher au mois de juin, il veut être titulaire. Donc, moi, ça ne me choque absolument pas. Je vous renvoie la question. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez qu'un mec vienne en conf de presse et dise « Ouais, non, mais moi, si je joue 40 minutes, je suis déjà content, super. » Mais ce mec-là, il ne fera jamais de carrière.
Ah non, mais je ne te dis pas ça, mais c'est évidemment
la question, c'était de dire, peut-être dans une année normale, une saison normale, ce n'était pas un souci, mais là, c'est une saison pré-Coupe du Monde, c'est très particulier, donc mais ça peut favoriser les états d'âme dans ce genre d'effectif.
On en est à deux journées de championnat, vous verrez que dans trois mois, tout ça sera rentré dans l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des blessés, parce qu'il y aura la Coupe d'Europe, il y aura la tournée, il y aura le top 14. Évidemment. Et que Hugo Mola, ça se trouve, des fois, il sera obligé de faire jouer des espoirs, quand bien même, il a 25 internationaux à chaque poste. Donc, ça va rentrer dans l'ordre. C'est juste que, voilà, Thomas Ramos, il a fait passer le message. Moi, je ne suis pas là pour enfiler des perles. Il a envie de jouer, il le dit, il l'assume. On reproche suffisamment à Jalibert ce genre de propos. Quand Thomas Ramos le fait, bah, moi, je dis chapeau, bravo. Quoi. Excusez-moi, il a des coronets, il assume ce qu'il a envie d'être, et tant mieux.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que l'année dernière, quand Thomas Ramos, quand même, qui était fin de contrat en 2023, il a prolongé dès l'année dernière jusqu'en 2027. Il prolonge, alors il sait très bien que Jaminé a signé au club.
Hein. Bien sûr.
Donc, cette concurrence, il accepte. Et oui, pour connaître quand même le compétiteur qu'il est, il ne va pas lâcher le numéro 15 comme ça. Hein. Et bon, il va peut-être prendre un peu le 10 aussi pendant un certain temps, ce qui n'est quand même pas un souci. Je vous rappelle juste que les deux derniers titres de champion de France, c'était avec Thomas Ramos en numéro 10 sur le terrain. Donc non, moi je pense que c'est plutôt une richesse si le staff arrive à bien le gérer, mais je pense qu'ils le géreront très bien.
Ouais, là-dessus, Hugo Mola, enfin Emmanuel pour en dire plus, mais s'il y a quelqu'un qui sait gérer les hommes, c'est bien Hugo Mola. Bon. Non ? Emmanuel confirme pas visiblement.
Ah pardon Arnaud. non mais après pour revenir sur les propos de Thomas, justement, ça aurait été mieux de souligner le fait que, voilà, s'il a eu cette sortie, c'est parce que c'est un compétiteur et, comme tu dis, qu'il n'allait pas lâcher le morceau, mais ça a été interprété plutôt du genre... ça a été tourné plutôt du genre à dire il y a un petit début d'incendie, il va falloir gérer les équipes. Oui, voilà, mais ça n'a pas été interprété de la bonne manière, parce que, voilà, le connaissant, et vous l'avez très bien relevé, c'est sûr que c'est un compétiteur et il va pas lâcher le morceau comme ça. Et justement, c'est bien d'avoir aussi des réactions comme ça. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est mieux que les discours yophilisés.
Ouais, c'est clair. Il a eu l'intelligence.
Il s'en fiche, d'ailleurs. Il était toujours titulaire. Donc, lui, tu vois, il n'y avait pas de souci.
Non, c'est pas vrai, ça.
Moi, je n'étais pas content non plus quand je sortais trop tôt.
Non, mais en plus, Thomas, il a eu l'intelligence directe d'éteindre l'incendie. Il l'a fait avec le sourire. Il l'a fait de façon très intelligente également. Voilà, fin de l'histoire. Sujet suivant, quoi.
Ok, d'accord. Ok, j'ai compris le message, Arnaud. Pas de souci. En tout cas, c'est vrai que sportivement, c'est payant. Hein. Deux matchs, deux victoires. Rapidement, un mot sur les Toulousains. La bande à Dupont qui survole ce début de saison, qui va à Pau samedi soir. C'est encore parti pour une saison où ils seront tout en haut.
Moi, je crois que surtout, la politique d'Hugo Mola, c'est d'engranger un maximum de points le plus vite possible parce qu'il sait que quand va arriver le mois de novembre, quand va arriver le tournoi Destination, il va être un peu déplumé et que plus il aura pris de points avant ces échéances-là, et mieux il se portera en fin de saison. Donc oui, effectivement, je pense que Pau a du souci à se faire. Ils vont aller là-bas pour gagner, peut-être même gagner avec le bonus offensif. Et je trouve que la stratégie, effectivement, du Stade Toulousain de gérer sa saison en fonction des échéances aussi internationales et de l'absence de ses joueurs, bah voilà, il y a... C'est finement joué, quoi.
Non, par contre, ce qui est certain, et je pense qu'on le découvrira sur la compo encore ce week-end, c'est qu'ils s'astreignent à un truc, c'est qu'ils veulent un petit peu plus économiser leurs internationaux, parce que l'année dernière, ils ont quand même fait le constat qu'en fin de saison, ils ont dû les faire jouer beaucoup pour assurer la qualification. C'est pour ça que Arnaud a raison, s'ils peuvent l'assurer plus tôt dans la saison, ce sera pas mal. Et les mecs sont arrivés, ils étaient sur les rotules, ils ont... donné beaucoup sur un quart de finale européen la semaine dernière, ils étaient à plat, la semaine d'après ils étaient à plat en demi, ils ont donné énormément sur un barrage top 14, 6 jours après ils étaient à plat en demi encore, et cette année ils veulent pas connaître cette même chose, donc je pense vraiment qu'ils vont faire des équipes un peu plus mixtes et lancer quelques jeunes à côté de leur star plus rapidement que l'année dernière.
Bon allez, on change de sujet, j'ai compris le message du patron Arnaud Berdelet. Sujet suivant, on parle de l'équipe de France. Alors, ce lundi, Emmanuel, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'entretien que tu as accordé au Midi Olympique et à Arnaud, d'ailleurs, sur la façon d'aborder, de gérer une saison pré-Coupe du Monde. tu sais ce que c'est évidemment toi, puisque tu as participé à 3 Coupes du Monde. Et cet article résonne brutalement avec l'actualité, puisque dimanche, Romain Ntamack et François Cross sont sortis sur blessure. Ntamack est absent un mois, Cross ratera la tournée d'automne des Bleus, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà que nous, journalistes, consultants, supporters, on se met à trembler pour nos internationaux. Alors évidemment, on ne peut pas les mettre dans le formol jusqu'en septembre prochain, jusqu'à la Coupe du Monde, mais entre top 14, Coupe d'Europe, tournoi, le risque de blessure est réel, un risque d'usure. Tu nous confirmes, Emmanuel, qu'une saison de avant Coupe du Monde, ça ne ressemble à rien d'autre.
Non, bien sûr, les joueurs, mentalement déjà, ils sont préparés, ils sont formatés, ils sentent que l'échéance approche, ils savent aussi que cette saison elle va être très très importante en vue de leur sélection, hein, pour tout simplement déjà pour la Coupe du Monde. Après, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a moins d'incertitudes, certainement que les Coupes du Monde que j'ai jouées moi, où il y avait peut-être où le groupe pouvait être plus ouvert. Là, le groupe, c'est à peu près le même qui travaille quand même depuis 3 ans. Bien sûr, il va y avoir quelques joueurs qui vont intégrer cette sélection de par un remplacement sur blessure ou de par la grande forme ou les quelques ovnis qui vont peut-être sortir sur la saison. Après, là, c'est vrai que déjà, par exemple, à Toulouse, il y a Cyril Bailly aussi qui est blessé. François Cross qui fait une rechute, qui va devoir se faire opérer. Romain Ntamack, ça a l'air un peu moins grave, mais...
Flamand également.
Mais voilà, il y a quand même des joueurs, puis ce sont des joueurs importants, donc il faut faire attention à, pour les clubs, à préserver ces joueurs. Mais le joueur, il ne faut pas qu'il ait l'impression d'être senti préservé non plus, parce que c'est le meilleur moyen pour qu'il se blesse, ou en tout cas pour qu'il se relâche, pour qu'il se dise qu'il est dans un confort avant une Coupe du Monde. Bon, en général, ça ne se passe pas trop, parce que quand tu as une saison comme ça, avant une Coupe du Monde... Bah, t'as envie de, il faut être le meilleur déjà tous les week-ends, à chaque fois que tu es sur le terrain, il faut assumer ce statut, il faut le montrer, il faut montrer aussi à tes concurrents directs que tu mérites ta place et que tu ne la laisseras pas, comme l'a montré Thomas Ramos. Et même si la saison est longue, mais ouais, c'est aussi une saison à jouer. Hein, enfin, je veux dire,
mais pour les cadres, il n'y a pas un risque de...
Quand tu es dans une saison, tu as aussi des titres à aller chercher.
Il n'y a pas la tentation d'en garder sous le pied? Toi, tu n'y crois pas, hein, c'est ce que tu disais dans le milieu olympique.
Non, moi j'y crois pas. La seule chose que j'ai relevé, c'est peut-être le fait que quand tu as une blessure, eh bien, tu vas peut-être prendre un peu plus de temps pour la soigner, quoi. Mieux la soigner, quoi. Tu vas moins brûler les étapes, voilà. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a ce qu'il faut au niveau des staffs, notamment médicaux et prépa physique, pour que les joueurs puissent revenir sur le terrain quand ils sont aptes.
Non, mais en plus, si je veux être un peu provoque, j'allais dire, c'est pas maintenant qu'on va trembler. C'est à partir du mois de janvier, parce que quelque part, vaut mieux qu'ils se pètent maintenant, les mecs. Hein. Là, Ntamack qui va souffler un mois, Cross, il reviendra en début d'année 2023. Les mecs, vaut mieux qu'ils se blessent tout de suite plutôt qu'ils se blessent dans 6 mois. Après, là où je rejoins Emmanuel, c'est qu'en plus, aujourd'hui, on a des bilans chiffrés de partout, on a des staffs pléthoriques. C'est pas aux joueurs à se gérer, c'est que je pense que les managers, ils sont pas fous. Ils connaissent très bien les ambitions et le plan de carrière de leurs joueurs. Ils ont tous la Coupe du Monde 2023 en tête. Et les Pierre Mignoni, les Hugo Mola, les Laurent Travers, les Philippe Saint-André et tout, ils savent très bien qu'ils vont devoir gérer aussi les états de forme de leurs joueurs. Et je pense sincèrement qu'à partir du moment où ils pourront le faire, ils le feront.
Oui, enfin, un manager, c'est pas à lui, de club, c'est pas à lui d'avoir des états d'âme par rapport à l'équipe de France.
Non, mais c'est surtout pas au manager de... Moi, je pense que le manager, dans son discours vis-à-vis du joueur, il faut pas qu'il lui explique clairement qu'il va le préserver, parce que c'est le meilleur moyen de se foutre dedans. Par contre, je pense, dans sa gestion, il peut essayer de le faire par moment quand l'effectif le permet, parce que si tu commences à dire à un joueur en début de saison, t'inquiète pas, je vais t'économiser, tu joueras, si ça se passe bien, les matchs, tu sortiras toujours 10 minutes avant la fin, etc. Et que tu commences à avoir 2 joueurs blessés à ce poste, c'est le meilleur moyen de te mettre dedans, que le joueur se braque et qu'il soit pas performant. Donc, personne n'est gagnant dans cette histoire-là. Après, comme le disait Jérémy, comme on l'a tristement souligné avec Arnaud dans l'interview de lundi du Midi Olympique, c'est que cette Coupe du Monde, elle va se lancer à partir du tournoi. C'est le tournoi qui va lancer un peu la saison sportive. D'ici là, on a... C'est quand même, il y a le temps de se blesser, de guérir, de revenir en pleine forme. Il y a plein de choses qui vont se passer. Donc, je pense vraiment à partir, ouais, voilà, de mars là, que ça peut devenir inquiétant et qu'il va falloir un peu gérer les organismes.
Après, la question, elle est sous-jacente, Olivier, dans la question que tu poses, c'est est-ce qu'il aurait fallu trouver un système pour bien protéger les
Exactement.
Internationaux
ça Oui, entre la Ligue et la Fédération. Parce que...
Voilà, ça a été plus ou moins évoqué. Fabien Galthié s'est interdit de demander ça, hein. C'est ce qu'il avait dit aussi dans les colonnes de Midi Olympique, il s'était interdit de demander ça, il disait que c'était impossible de demander ça au manager, et je crois qu'il a raison. Plutôt que de trouver un système qui aurait contraint les clubs, autant essayer de travailler en bonne intelligence. Aujourd'hui,
oui, mais pour
dialogue.
Une saison, parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde en France. Mais aujourd'hui, c'est colossal, bien plus important que le championnat.
Il y a les intérêts des clubs aussi, Olivier, tu peux pas.
Voilà, oui, mais c'est une année très particulière, tu vois bien.
Ouais, mais les enjeux économiques sont tels aujourd'hui pour les clubs que. Dans ces cas-là, on ne joue pas l'année avant la Coupe du Monde pour protéger les joueurs. Mais comment font les clubs pour vivre? Comment vont survivre? Je rappelle juste qu'on sort d'un épisode quand même Covid où ça a été un peu compliqué pour les clubs. Je ne vois pas comment. Mais je pense que surtout aujourd'hui, et je crois que c'est Fabien Galthié qui le disait ou c'est Imanol dans l'interview qui disait les staffs sont truffés de data. Ils ont tout un tas d'informations. Donc, Hugo Mola, demain, quand il va voir sur les statistiques de ses joueurs qu'il y en a un qui est un peu en sous-performance, il ne le mettra pas sur le terrain. Naturellement, il va le protéger. J'en suis convaincu. Quel intérêt pour Hugo Mola de mettre à Antoine Dupont, qui est moins bien, j'en sais rien, le 28 janvier, un match de Coupe d'Europe. Si Antoine Dupont, il est un peu à la ramasse, il est dans un creux à ce moment-là, bon, le problème, c'est qu'en ce moment, Dupont, il a rarement des creux. Ce n'est pas le bon exemple. Mais c'est... Il n'a aucun intérêt, Hugo Mola. Donc, naturellement, et pour le bien de son équipe, et indirectement pour le bien de l'équipe de France, il va le ménager. Et ce sera pareil pour tous les clubs, je pense. Alors après, effectivement, il y a des clubs qui vont être dans la souffrance. Je pense à... là, comme ça, j'ai pas d'exemple bien précis, mais il y a sûrement des internationaux qui sont dans des clubs où la qualif va être compliquée et on aura peut-être besoin d'eux. Mais ce sera du cas par cas et ce sera géré. J'en suis intimement convaincu. Je crois que les leçons du passé ont été tirées. Les relations aujourd'hui entre la Fédé et la Ligue ne sont plus ce qu'elles ont été. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit quand même qu'avec des relations apaisées, les résultats de l'équipe de France sont bien meilleurs. Donc, tant mieux. Donc, faisons leur confiance. Faisons confiance aux managers des clubs. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'éclat de voix. Je dis pas ça parce que forcément qu'il y aura des périodes de tension sur l'utilisation de tel ou tel joueur à tel moment de la saison, mais franchement, et puis rappelons simplement une chose quand même, et Imanol l'a très bien dit, Imanol, que des fois il partait jouer au Pays de Galles avec des mecs qui étaient arrivés deux jours avant, qui connaissaient rien à l'équipe de France. Là, l'équipe de France a quand même un confort de travail jamais vu auparavant, 42 joueurs une semaine avant chaque tournée, une semaine avant chaque tournoi. Voilà, il ne faut peut-être pas trop non plus en demander au club. Aujourd'hui, on voit qu'avec le système qui a été mis en place, l'équipe de France est performante. Faisons confiance au club et au staff de l'équipe de France pour les amener à leur pic de forme le 8 septembre 2023.
Enfin, moi, je regarde les chiffres, je vois quand même deux joueurs importants qui sont déjà blessés après seulement deux journées. Tu vois.
Ouais, mais à un an de l'événement.
Là, regarde, il n'y a pas que Damien Penaud, son retour le week-end dernier, était blessé. On a Gabin Villière qui est toujours blessé à Toulon, mais moi, j'ai envie de te dire que c'est le lot de toutes les saisons. Il y a des joueurs qui, malheureusement, le rugby est un sport traumatisant.
On est qu'en septembre 2022. Imanol le disait très bien dans l'interview. Lui, il a démarré la prépa de la Coupe du Monde 2011 au fond d'une piscine. Il ne pouvait pas poser le pied par terre. Ça ne l'a pas empêché d'aller en finale de Coupe du Monde.
Ouais, et puis, ils auront encore une vraie préparation avant la Coupe du Monde. Donc, les derniers petits bobos qui aura en fin de saison, vous inquiétez pas, tout sera mis en ordre et en ordre de marche pour que tout le monde soit quasi à 100% à la prochaine Coupe du Monde.
Mais la peur de la blessure, Emmanuel, ça existe quand même chez le joueur de rugby de haut niveau, ou c'est on fait en sorte de ne pas y penser?
Bon, honnêtement, chacun, c'est vrai, chacun a ses superstitions, mais c'est quelque chose dont on n'aime pas parler, voilà, par superstition. C'est vrai que moi, je sais que les années de Coupe du Monde, en général, on ne parlait jamais de ça. Entre joueurs, c'est un truc dont tu ne parles pas. C'est le meilleur moyen de t'attirer la poisse. Donc, on ne parle pas du tout. Après, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu un joueur dire « voilà, je vais plus gérer cette saison » ou non, au contraire. Déjà, nous, il fallait vraiment qu'on se gagne la place. Moi, je sais qu'il y a des saisons de Coupe du Monde où je revenais l'année d'avant, où j'avais peut-être pas été sélectionné, où j'étais pas un titulaire en puissance, donc j'avais vraiment besoin de montrer encore plus. Et ça a commencé sur la tournée de novembre, après forcément sur le tournoi. souvent sur le tournoi, c'est là aussi que tu allais chercher un peu ce statut un peu de cadre ou de titulaire, ou en tout cas d'avoir plus de certitude dans ce groupe un peu fermé de préparation. On sait aussi qu'il y aura un groupe plus large et à la fin, il y aura des choix à faire. Mais je n'ai pas souvenir non plus que moi, sur les trois Coupes du Monde que j'ai jouées, il y a eu de très, très graves blessures. Et sur les trois Coupes du Monde, on a toujours aussi amené des joueurs blessés qui étaient en reprise. Après, ça, c'est la confiance du staff. Je pense qu'au niveau médical, ils sont assez bien suivis pour savoir si un joueur pourra participer ou pas. Et ça laisse aussi le temps aux joueurs de se préparer, même en arrivant blessé sur une Coupe du Monde.
Et puis le rugby n'est pas le sport le plus traumatisant. Hein. Je rappelle 2003, Peter De Villiers, descente en VTT, l'épaule en vrac. 2011, Sylvain Marconnet, descente en ski, le genou en vrac. Donc finalement, autant qu'ils jouent au rugby, hein, les mecs. Hein.
Ben voilà, c'est une bonne conclusion. Mais attention, messieurs, je vais tenir les comptes, hein, semaine après semaine. Attention, hein, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessures. Bon, merci beaucoup, les gars. On a passé un bon moment encore. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, hein, pour un nouveau numéro d'Arrêt Buffet. Salut, Emmanuel. Salut, Jérémy.
Merci à vous.
Ciao. Salut, les gars.
Salut.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.